Et bonjour à tous, c'est Cal sur Fréquence 7 et vous écoutez la deuxième partie de l'émission « Nos santé mentales en lutte sur l'enfance et l'enfantisme ». Un beau programme encore pour cette deuxième partie avec un mélange d'excitation et une émotion qui en ressort submergée. Pourquoi submergée? Parce qu'à l'heure où on sort des salons du livre à Paris et autres villes, il y a tant de sorties littéraires qui traitent de notre thématique. Pour n'en citer que deux, « Là où je n'ai plus pied » de l'écrivaine et journaliste argentine Belén López Perot, ou encore « L'enfant hors champ » de Sarah Elena Müller. Et puis les prises de parole qui vont avec, je pense à Anouk Greenberg, cette artiste que l'on a pu entendre sur Quotidien le 7 avril dernier, lors de la sortie de son livre « Respect », qui nous propose un texte court, incisif, décrivant avec une grande clarté la manière dont s'organise l'omerta. En partant de son propre vécu, elle a raconté ce que cela fait dans la tête et dans la chair lorsque l'on a porté atteinte à notre intimité. Et puis, la sélection de la Biblie, queer féministe, les lins, les lunes, les lynx, qui s'agrandit de tous ces récits pour lever cet omertale. Alors, ce qu'on peut retenir, pour commencer, c'est à quel point le sujet de l'inceste et des violences faites aux enfants est terriblement banal, mais de moins en moins tu. C'est si insupportable à entendre, mais ça commence à percer le silence. Les ressources se multiplient, il n'y a qu'à voir par exemple dans l'une de nos références, page 40 de Cécile C. Les témoignages abondent pour cesser l'intolérable, pour crier la vérité et demander réparation et protection pour celles qui arrivent après. Vous l'aurez compris, comme beaucoup de sujets, on n'aura pas tout dit, mais on aura fait du mieux qu'on aura pu. Et les références de cette deuxième partie, sélectionnées avec l'aide de mes copaines merveilleuses de la Biblie, c'est justement ce que Cécile C, journal de sortie d'inceste de Cécile C. C'est mon coup de cœur absolu. Ensuite, « Protéger nos enfants » de Gabriel Richard, c'est le livre que j'aurais aimé que mes parents lisent. Ce livre, j'ai voulu le sélectionner à l'heure où l'on prépare la Pride en milieu rural et où je me questionne sur l'impact des traumas dans l'affirmation d'être soi, sur le silence, le temps nécessaire et les luttes intérieures et extérieures, sur le camouflage nécessaire quand on a grandi dans une société hétéronormée, sur une sorte de ruralité balnéaire pour ma part, où tout était blanc, hétéro, cisgenre et valide, et comment on grandit quand on est marginal, avec une exclusion sociale, en devant toujours fuir à la ville pour être soi et être le farfadé bizarre, weirdo qu'on a toujours été. Et puis une autre référence qui devient classique, tristement, La Familia Grande de Camille Kouchner, ou encore, ou peut-être une nuit, Inceste, la guerre du silence de Charlotte Pudlowski, à qui on doit aussi le podcast éponyme. Et puis Les Bisous Interdits, un album jeunesse pour parler de l'inceste aux enfants par Mélanie Limousin et Joël Rollier. Et enfin Tout brûlé de Lucille de Besse-Louan et Compte à rebours de Tiffendé. Car justement, j'ai la chance pour cette deuxième partie d'accueillir notre invitée Tiffendé, une autrice, comédienne, créatrice de la féminine universelle, formatrice, conférencière, engagée pour l'écoféminisme, l'enfantisme et l'antispécisme que j'ai été rencontrée à Paris. On y parlera de la révolte de l'enfance au feu de la colère et la fougue au combat. On y parlera de qu'est-ce que ça fait de remettre les imaginaires et les histoires à l'endroit avec cet artiste engagé que j'aime tant. On l'écoute et on s'écoute.
Bah, chère Tiffaine, donc aujourd'hui on est à Paris. On se retrouve pour parler dans cette deuxième partie sur l'enfance et l'enfantisme. De ton œuvre, de ton engagement. Et je voulais initier cette discussion avec la fin de cet ouvrage journal de sortie d'inceste, ce que Cécile sait, donc l'artiste Cécile C, qui m'a énormément marquée et qui donne aussi un peu de baume au cœur quand on traite de sujets comme ça. Alors voilà, sortir d'inceste, c'est bien plus que sortir d'amnésie. C'est sortir du déni, sortir de l'emprise, sortir de la honte, sortir de la culpabilité, sortir des récits dominants et de la viscosité. C'est retrouver l'enfant que j'ai été, la prendre par la main et construire avec elle un monde dans lequel on ne laissera plus les enfants se noyer dans le glauque, un monde à l'endroit. Il me reste une main libre, je te l'attends si tu veux. Bon, aujourd'hui, Tiffaine, c'est à toi qu'on va tendre cette main. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui sur ce sujet et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Bah déjà, merci de m'inviter infiniment. Alors, peut-être vous entendrez certaines féminisations dans la langue. C'est la féminine universelle qui jaillit à sa façon. Donc, une langue que j'ai inventée où la féminine l'emporte sur le masculin. L'exact inverse de la langue que l'on nous force à parler depuis qu'on est petite, justement. Et alors, moi, l'enfantisme, j'ai un rapport un peu particulier avec, parce que finalement, ça a été ma première lutte dans ma vie. Donc, bien avant que je devienne autrice, que je fasse des spectacles engagés sur la féminisme et d'autres luttes, c'était déjà là, en fait, l'injustice. Mais insupportable, en tout cas celle que je perçois. J'ai pas la prétention de les percevoir toutes, mais en tout cas celle que je perçois. Et donc ça a commencé par l'injustice que nous subissions, enfantes. Et ça pouvait prendre plusieurs formes, c'est-à-dire le truc de, en fait, tu dois le respect aux adultes. Ouais, alors soit c'est mutuel, soit que chi, enfin, c'est hors de question. Et donc vous voyez les adultes qui te tutoieront. Non. Enfin, c'est quoi leur mérite d'avoir pris la peine de vieillir alors que c'est inévitable? Ah, mais non, chapeau, hein, félicitations, cookie. Donc voilà, et ça pouvait être aussi le fait qu'on m'interdise de voter, en fait, d'être citoyenne. Alors, en revanche, dans mon cas personnel, heureusement que je ne votais pas parce que comme je regardais les guignols de l'info, je croyais que Jacques Chirac était vraiment très sympa. Mais donc j'aurais sûrement voté n'importe comment. Mais en même temps, si on m'avait expliqué, peut-être pas. Donc. En tout cas, cette sous-citoyenneté, il n'y avait pas encore à l'époque les assemblées citoyennes d'enfants, et ça commence un peu, même si c'est très à l'état embryonnaire, quoi, mais. Et donc, ça pouvait prendre plein de formes, aussi quand on me forçait à finir mon assiette. Cette violence qu'on est beaucoup à avoir subie, où vraiment, c'est. En plus, systématiquement, c'était sur du cadavre. De personnes animales, donc appelées viande, avec ce truc-là de je vois pas en quoi d'autres personnes qui crèvent de faim, ça devrait me faire se sentir mieux. Mais et puis oui, ce truc où tu mâches le cadavre jusqu'à en vomir. Et donc là, j'étais aidée par mon petit frère qui était un teckel nain à poil long, où j'arrivais à un instant d'inattention à mettre la viande par terre et hop. Mais donc, voilà, ça c'est la première oppression et ça se matérialisait, les maltraitances dans mon enfance de mille manières, de manière extrêmement, pour le coup, banalisée. C'est-à-dire, c'était les coups, mais les coups, soi-disant, c'est pas battre les enfants parce que c'est juste des fessées, des claques et je te jette contre le mur et voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas un ceinturon, à ce moment-là, c'est pas des coups en fait. Et donc, comme tout est banalisé et que la majorité de mes copines à ce moment-là subissent les mêmes violences, c'est compliqué de se révolter. Mais moi, je me révolte. Alors, au départ, j'ai pas le mot enfantisme, bien sûr. Mais donc, je vais faire des complots anti-adultes avec des copines. On va faire des pièges à adultes à base de mini-billes, à base de pour les faire tomber, à base de trous dans la terre avec des branches en picot au fond et recouverts et tout ça. Et puis tu l'appelles, voilà, à base de pièges assez dangereux et avec système de branches qui tombent sur la gueule. Enfin, mais vraiment déjà, voilà. Puis j'ai fait des manifs aussi avec des panneaux. Si tu votes, je vote. Enfin, voilà. Donc il y avait vraiment déjà quelque chose là-dessus. Et moi, j'étais persuadée d'être déjà une petite personne. Et c'est vrai qu'en plus, quand les adultes autour de moi m'expliquaient, mais non, mais si on te frappe, c'est parce que les enfants ont besoin de limites, hein, parce que les adultes n'ont pas du tout besoin de limites. Donald Trump, ça se voit. Le monsieur n'a pas besoin de limite, du tout. Et on m'expliquait en long, large, en travers que c'était pour mon bien, etc. Et moi, je disais non, je suis sûre que c'est faux. Et on me disait, mais tu verras, quand tu grandiras, tu comprendras qu'on avait raison. Et ben non, j'ai grandi et sur un sacré paquet de trucs, j'ai compris au contraire que j'avais mais tout à fait raison depuis le départ. Et plus je grandis, plus je sens bien que j'avais raison. Donc je pense que je suis très connectée à la petite fille que j'étais, qui avait quand même beaucoup de bonnes intuitions, plein de mauvaises aussi, mais beaucoup de bonnes. Et puis ensuite, ça s'est mu en animalisme, puis en féminisme, enfin ça s'est augmenté, et puis de lutte sociale, et puis voilà, de toutes les luttes qui nous animent évidemment. Mais cette lutte enfantiste, elle est restée, et donc quand j'ai commencé à écrire Compte à rebours, avec l'idée de réutiliser cet imaginaire commun qui a bercé notre enfance, et moi j'ai été bercée comme beaucoup beaucoup de gens par les Disney que je connaissais en long, large et en travers, avec toutes les chansons que je connaissais par cœur, avec, enfin voilà, et donc j'avais envie de retravailler ça de manière juste, en rendant justice aux héroïnes que sont les femmes et que sont les enfantes et les enfants, et en particulier les petites filles dans les contes. Et je me souvenais, voilà, du conte du petit Poucet, par exemple. Je pourrais vous chanter ce passage, parce que ce passage est une comptine. Et moi, quand tout est bien qui finit bien, je me souviens, j'avais levé la main en classe et j'avais dit, mais pas du tout. Il y a 7 petites filles qui ont été dévorées par leur propre père. Il n'y avait pas un autre moyen de se démerder. Parce que l'ogre, il faisait... Et donc on m'a dit, mais non, c'est pas du tout triste, parce que c'est les filles de l'ogre, donc c'est des ogresses, donc elles l'ont bien mérité. Je dis, non mais attends, double peine, déjà ton père, c'est un ogre. Et du coup, ça déteint sur toi, tu vois rien. Et en plus de ça, non, c'est pas des ogresses. Sinon, elles les auraient bouffées, les mecs. Puis elles auraient peut-être eu raison, vu le niveau d'empathie des mecs d'en face. Du coup, j'avais été punie pour impertinence, comme d'habitude, ou un truc comme ça. Et donc, je me souviens de ce truc-là, où j'avais trouvé ça horrible. C'est-à-dire que non seulement on n'a aucune empathie, ni pour les petites filles, ni pour la maman, mais en plus, on nous amène à être soulagés du fait que ces petites filles ont subi donc, la métaphore de l'inceste et du... et de l'infanticide paternel, et ah ouf, c'est pour que 4 petits garçons s'en sortent, quoi. Il y avait vraiment un truc terrible, j'ai voulu commencer à parler de combat pour les droits des enfantes et des enfants, et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, on est en 2014 quand arrivent ces personnages-là, 2012 pour les 7 filles de l'ogre, remarque, et là je me dis, en fait il nous manque un mot, parce que femme, féminisme, on l'a. Enfant, on n'a pas. Donc, adulte, du coup, ça va donner enfantisme. Et donc, à ce moment-là, je dois l'inventer. Et j'apprendrai plus tard que dans les mêmes années, aux États-Unis, il y a des copines qui ont inventé childism. Voilà, je n'ai pas leur nom, mais du coup, dans les mêmes eaux, quoi. Et je pense que dans plein de pays du monde, tu vois, il y a plein de moments où tu as tellement besoin d'un mot, ça y est, on commence à lutter pour les droits des enfantes et des enfants. Donc, puis est arrivé adultisme en parallèle au sexisme, et puis est arrivé misopédie, qui n'est pas donc la haine des pieds, mais bien la haine des enfantes et des enfants en parallèle à misogynie. Et je pense que ce qui se combat bien s'énonce clairement, et c'est pour ça que j'ai eu besoin de ce mot, et ensuite je l'ai mis dans mon personnage de Gretel, qui revendique le fait d'être enfantiste pour lutter contre l'adultisme et la misopédie. Donc c'est un peu ça le voyage en enfantisme.
Pour cette pause musicale, je vous propose une chanson, une comptine, à partager sans modération, qui raconte l'histoire des 7 petites filles et de l'ogre, issue du spectacle de Compte à rebours que j'ai eu l'immense chance d'écouter seule dans le salon de Tiffany. On l'écoute et on se laisse bercer.
Vous connaissez l'histoire du petit Poucet, 7 frères abandonnés un soir dans une forêt. Mais connaissez-vous l'histoire des 7 sœurs sacrifiées qui moururent un soir à leur place dévorés. 7 frères virent une lumière brillante dans la nuit noire. C'était une chaumière, ils frappèrent plein d'espoir. 7 filles et leur mère attendaient terrorisées que rentre l'ogre leur père. Un ministre respecté. Elles ouvrirent aux sept frères, offrirent l'hospitalité, le linge et le couvert, malgré leur pauvreté. Quand arriva le soir, les sept frères se couchèrent, et blottis dans le noir, les sept sœurs se serrèrent. L'ogre rentra alors, après l'interrogatoire, il frappa sa femme encore, l'assomma sans s'émouvoir. Il sentit tout à coup une nouvelle odeur de chair fraîche, il est fou, cet ogre agresseur, ivre de violence. Il monte à l'étage, dans la chambre il s'élance pour faire un carnage. Mais le petit pousset d'une ruse a eu l'idée, couronne contre bonnet, suffisait d'échanger. Sept sœurs servent de buffet, sept frères sont sauvés. Voilà, c'était la belle histoire du petit pousset qui jouit d'une victoire heureuse tout à fait. Mais connaissez-vous l'histoire des sept sœurs sacrifiées? Chères enfantes dans le noir, soyez donc rassurées. Si vous avez eu peur pour pousset malin, réjouissez-vous en cœur, car cette histoire finit bien. Les garçons, apprenez que votre vie seule compte. Fillette, c'est tout tracé, notre avenir est dans ce conte. Petite fille, résistez, c'est notre mort qu'ils escomptent. Mais l'on peut changer l'histoire du petit pousset. Aux enfantes dans le noir, vaudrait mieux raconter que sept sœurs et sept frères ensemble se sont alliés, avec aussi la mère, que l'ogre fut arrêté, qu'elle y eut un procès, hashtag Bétaram, et qu'il dort en prison, que toutes vivent en paix, les filles comme les garçons. Qu'ils soient ogres ou rois, ils n'ont pas le droit de faire mal aux enfants. Et les filles comptent autant. Elle était une fois une petite fille, comme toi, comme moi, elle y a quelques années déjà, elle s'appelait Paul-Anne. Sa maman était tombée malade quand elle était très petite et elle était partie pour toujours. Paul-Anne s'en souvenait à peine, mais elle avait bien quelques photos qu'elle regardait souvent. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui avaient connu sa maman lui disaient qu'elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Paul-Anne était plutôt heureuse. Elle avait de nombreuses amies enfantes, deux mères grandes, et un ancien ami de sa maman, c'est ce qu'on lui avait dit, qu'elle voyait de temps en temps. L'ami bleu, on l'appelait, peut-être à cause de la couleur de ses yeux. C'était un peu particulière comme famille, elle la savait. Les autres avaient la plus souvent, c'est vrai, leur maman ou des fois leur nounou pour les attendre à la sortie de l'école. Des fois, c'était leur papa, mais elle ne savait pas pourquoi, c'était super plus rare. Et elle, c'était ses mères grandes. Et c'était très bien comme ça. Quand c'était l'ami bleu qui venait la chercher, elle aimait bien aussi, même si ça lui faisait bizarre qu'il l'appelle très forte en criant devant tout le monde « Hé, peau d'âne, je suis là !» Elle aimait pas trop ça, ce surnom qu'il lui avait donné à cause de son drôle de prénom composé, composé justement des deux prénoms de ses deux mères grandes. Même si lui, il disait qu'il l'appelait comme ça pour de rire, elle, ça la faisait pas vraiment rigoler. Mais cela, pour elle, ça ne comptait pas, parce que Paulane recevait plein de câlins. De ses copines le matin, de ses mères grandes le soir, et les câlins, ça, elle aimait bien. Ça lui faisait chaque fois comme une grande oui à l'intérieur d'elle, une oui chaude et agréable, rassurante et douce, joyeuse et plaisante, une superbe oui en dedans, comme quand elle regardait des photos de sa maman. Un soir, alors que l'ami bleu leur rendait visite à la maison, il vint dans sa chambre pour lui souhaiter la bonne nuit et lui fit un câlin. D'abord, Paulane ressentit la grande oui à l'intérieur, comme d'habitude, et elle sourit pour bien savourer. Mais au bout d'un moment, sans savoir exactement ni pourquoi ni comment, elle s'aperçut que c'était devenu différent. La oui avait disparu, et à la place, ça lui faisait non. Le câlin allait de travers ou trop loin. Ça peut être difficile parfois de dire non à quelqu'un qu'on aime bien. Alors Pauline le repoussa pour la première fois. C'était déjà bien une sorte de non, n'est-ce pas? Mais il ne s'arrêta pas. Ce fut la plus sombre nuit de sa toute petite vie. Le lendemain, à l'école, Pauline, inquiète et épuisée parce qu'elle n'avait pas pu dormir du tout, resta au fond de la classe sans rien dire à personne, elle qui d'ordinaire parlait sans arrêt. Ses amis crurent qu'elle leur faisait la tête. Alors elle sentit monter en elle une grande énervement, une immense colère, et elle, qui était toujours très soigneuse pourtant, elle renversa sa table et celle de sa voisine Mérida, avec tous ses cahiers par terre éparpillés. L'institutrice se fâcha et la prit à part. Elle lui demanda qu'est-ce qui te prend? Alors Paulane lui répondit doucement dans l'oreille. L'ami bleu m'a fait un câlin qui m'a fait mal hier soir. Et l'institutrice, parce que parfois les adultes ne savent pas écouter correctement les enfantes et les enfants, lui répondit: Le gentil monsieur qui prend si bien soin de toi et de tes mères grandes, c'est impossible. Il vient te chercher si souvent. C'était des âneries aujourd'hui, hein, décidément. Je comprends mieux pourquoi il t'appelle peau d'âne. Ces mots firent très mal au cœur de Paul Anne. Elle se dit d'abord, à quoi bon en parler? Personne ne voudra me croire. Et puis, elle ne connaissait pas le numéro 119, où peuvent appeler gratuitement les enfants et les enfants en danger. Mais quelque chose au fond d'elle, peut-être une voix lointaine de sa maman, lui dit de persévérer, jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne personne pour l'aider. À la récré, Marianne, la bibliothécaire de l'école, remarqua que Paulane restait toute seule dans la cour au lieu de courir et de jouer avec les autres enfantes comme elle aimait la faire d'ordinaire. Et cette bibliothécaire, elle était peut-être un peu sorcière. En tout cas, c'est ce qu'on disait dans l'école. Hein, parce que, comme par hasard, comme par magie, elle trouvait toujours sur ses étagères pile le bon livre qui plairait à chaque élève. C'est ainsi qu'on l'appelait Marianne la bonne fée. Grâce à elle, Paulane avait lu plein d'histoires fantastiques avec des héroïnes intrépides qui vivaient des aventures, son style de livre préféré. Marianne s'approcha de la petite fille et lui demanda doucement. Tu sais, Paulane, je vois que tu ne vas pas bien et cela m'inquiète. Si tu veux bien m'en parler, j'en serai heureuse. Je t'écouterai. Je serai de ton côté et je t'aiderai. Alors, à ces mots, qui sont comme des bibidi-babidi-bou, Paulane lui raconta toute la terrible nuit. Elle lui décrivit ce câlin qu'il lui avait fait, non, qui en fait n'en était pas un. D'ailleurs, avait-elle les vrais mots? Caresse venait dans sa tête, mais ça n'en était pas, alors peut-être qu'agresse. Pendant ce temps-là, Marianne prit des notes, parce que chaque mot que disait Paulane était alors très important. Quand Paulane eut fini de raconter son récit, Marianne la regarda avec de grands yeux pleins de tendresse et de chaleur. Il lui dit simplement ces trois phrases qui firent trois grandes oui dans le cœur de Paulane. Il n'avait pas le droit de faire ça. C'est la loi. Tu n'y es pour rien. Je te crois. Et elle ajouta, tu as très bien fait de m'en parler, je t'en remercie. Maintenant, je vais t'aider. Je vais aller téléphoner à une personne importante qui s'appelle procureuse de la République et qui pourra t'aider. Veux-tu venir avec moi dans mon bureau ou préfères-tu aller jouer ? Comme Paulane se sentait déjà mieux, elle préféra retourner jouer avec ses copines qui furent soulagées de la retrouver. Un peu plus tard ce jour-là, Marianne accompagna Paulane dans un hôpital où des gens s'occupèrent d'elle gentiment et firent des examens, des adultes formés. Et elle n'avait pas peur parce que sa Marianne, la bonne fée, était toujours près d'elle à toute bien lui expliquer. Et puis elle raconta de nouvelles son histoire. Et chaque fois, des adultes formés l'aidèrent à aller mieux. Maintenant, Paulane vit très heureuse avec ses deux mères grandes et aussi avec Marianne, la bonne fée, qu'elle voit souvent à la bibliothèque de l'école. Et personne ne l'appelle plus jamais Paulane. Désormais, avec ses amis, dans la cour de récré, elle fredonne souvent cette chanson que leur a apprise Marianne, la bonne fée. Mon corps peut sauter, courir et danser. Il s'élance dans les airs et retombe sur ses pieds. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse-moi le mien. Ton corps peut jouer à tout ce qui lui plaît, mais il te dit aussi ce qui lui déplaît. Et quand on te touche, tu sais ce que ça te fait, tu sais ce que tu ressens, ce que tu ressens est vrai. Car ton corps, ce n'est pas le mien. J'ai mon corps à moi, je te laisse le tien. Parfois c'est dur de pouvoir dire non, mais quand ça me fait non, je sais que j'ai raison. Et quand on me touche, je sais ce que ça me fait. Si je te dis non, laisse-moi donc s'il te plaît. Car mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse-moi le mien. Parfois c'est drôle de garder un secret, mais quand il est mauvais, vaut mieux cependant dire ce que l'on ressent. Ensemble. Mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse-moi le mien. Mon corps est à moi, rien qu'à moi. Je dois en prendre soin, puisqu'il est à moi. Ton corps est à toi, rien qu'à toi. Tu dois en prendre soin, puisqu'il est à toi. Une dernière fois. mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse-moi le mien. Je précise que la chanson de la fin, c'est un programme qui était assez connu dans les années 70-80 qui nous vient du Québec, qui s'appelle Mon corps, c'est mon corps. Alors, je vous encourage à aller voir sur YouTube, on trouve les vidéos de départ avec les premiers pédagogues qui ont dû bien vieillir depuis. Mais donc c'est très daté, c'est vraiment image années 70-80, mais le programme a encore beaucoup de légitimité et cette expression de « si ça te fait non, c'est non ». Et si un jour tu as du souci à faire respecter un non, je serai là pour toi. Ça, quand j'étais professeuse de théâtre pour des enfants, je la disais. Et de tous les âges, tout le monde comprenait.
Ça m'a mis des frissons, ce conte. Et c'est un peu ce que ça me fait à chaque fois que je viens de voir aussi jouer. C'est quand à la fois tu remets ces histoires à l'endroit et aussi tu les fais bien se terminer, vraiment. Avec aussi des histoires de fin un peu plus queer, un peu plus engagées, un peu moins hétéronormées et toujours... voilà, qui remettent ces enfants qui sont au cœur des contes de fées en protection.
Je voudrais rendre famage aux professionnels du collectif féministe contre le viol, qui est une association qui existe depuis 40 ans, qui nous donne les principaux chiffres qu'on a sur la question des violences masculines, donc à l'encontre très majoritairement des femmes et des enfantes et des enfants, en majorité les petites filles. Et en fait, elles font tout un cycle de formation qu'elles proposent gratuitement. Alors, elles n'ont pas énormément de place, mais voilà, moi, je l'ai faite en tant qu'artiste féministe pour ne pas raconter n'importe quoi dans mes spectacles. Et c'était juste, j'ai écrit ça juste après la formation donnée par Emmanuel Piette sur la prévention des violences pédocriminelles. Et donc, voilà, pour expliquer à la fois aux enfantes de ne pas désespérer qu'il y aura des adultes pour les écouter. Mais que des fois les premières personnes à qui on confie ne savent pas nous accompagner ou ne veulent pas Et puis pour les adultes, bah, que voilà, faut noter absolument qu'on peut faire la lettre au procureur, qu'on peut ne pas passer par la case plainte. Voilà, que. Donc, donner des grandes. Puis le 119, hein, donner des outils, quoi, aussi aux adultes.
Est-ce que tu veux terminer sur quelque chose, sur des mots que tu aurais voulu entendre quand tu étais enfant, ou pour les adultes aussi qui ont leur petit enfant intérieur qui a été touché par ces mots?
Je ne sais pas si j'aurais mieux que la petite chanson de Mon corps, c'est mon corps. Ce que je sais, c'est que moi, ce qui a scellé le fait que la notion de famille n'est plus dans ma vie. Enfin, j'en reconstruis une autre, mais je l'appelle une fameute parce qu'elle est animaliste, cette fameute. Donc on a meute et famille, enfin voilà, comme ça je change le mot. Mais si ce mot-là me va pas, parce que le déclencheur de ça, ça a été le fait que deux de mes tantes n'ont pas été crues par rapport aux violences pédocriminelles qu'elles avaient subies et pour lesquelles elles avaient tellement de symptômes toute leur vie. Et ce qu'on entendait sur elles, c'était qu'elles étaient feignasses et menteuses et hystériques et je ne sais quoi. Alors qu'en fait, bah, typiquement, l'une d'elles à laquelle je veux rendre famage... Tata, tu te reconnaîtras si tu m'écoutes. En fait, c'est les conséquences normales des violences pédocriminelles qu'elle a subies qui l'empêchent de pouvoir travailler. Et donc, on est devant ce système très très bien scellé où on va reprocher, non seulement on va pas aider les victimes, mais on va leur reprocher les conséquences normales des violences qu'elles ont subies. C'est Muriel Salmona qui utilise cette métaphore, donc Muriel Salmona de Mémoire traumatique et victimologie, qui travaille beaucoup sur les violences masculines en général et en pédocriminelles notamment, et qui explique que c'est vraiment comme si on avait eu un accident sur la route, mettons on a perdu une jambe et on saigne beaucoup, et non seulement on va pas nous emmener à l'hôpital, non seulement on va se laisser se démerder, mais en plus on va nous reprocher de salir la route, quoi, avec notre sang. Et c'est exactement ça. Et en fait, c'est ça qui a été le déclencheur de me dire, OK, donc il y a vraiment un problème. En fait, il y a vraiment un énorme problème. Et j'ai entendu toute ma vie, tu finiras comme tes tantes. Sous-entendu, finalement, tu finiras comme une femme multitraumatisée. En fait, avec tout ce que ça a d'addiction, d'incapacité à vivre, d'être repérée par des agresseurs, conjoints violents après, enfin, tout le paquet, quoi. Et donc voilà, je voudrais mes tatas, enfin, il y en a une qui est plus là pour entendre, mais des suites, voilà. Mais je voudrais vous dédier à vous et à vos enfants, tous vos enfants, même petits-enfants, vous dédier à vous ces paroles enfantistes.
Merci, ma Tiffaine.
Merci à toi.
Eh bien voilà, ça y est, j'ai enfin accouché de cette émission sur l'enfance et l'enfantisme. C'était un gros morceau pour moi, car tant de traumas découlent de l'enfance. Mais je suis reconnaissant d'avoir pu vous partager tout ça et j'espère que ça en aidera. Encore merci à mon invité Tiffendi pour la générosité de son art, le courage de son témoignage et ses engagements depuis tant d'années déjà. On lui envoie de la force et n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, à lui envoyer et lui donner du love pour contrer le harcèlement qu'elle subit de la part de masculinistes lâches et impunis pour l'instant. On se retrouve pour une émission que je vous avais déjà annoncée pour avril, mais qui arrive finalement enfin en mai. Décolonisation et lutte antiraciste au programme. Il m'a fallu beaucoup de temps de préparation et caler nos emplois du temps avec deux invités précieuses à mon cœur. Et en juin, on finira cette saison sur réinventer l'amour et la parentalité. Le livre Transition entre les deux émissions, c'est le privilège de dénoncer de Carole-Anne Souffrant sur la marginalisation des témoignages des filles et femmes afro-descendantes victimes doublement de racisme et de violences sexuelles et sexistes, notamment dans l'enfance. Je vous laisse et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.